La boulangère qui s'ennuyait. Par Olivier de Nance. Chapitre 1. Dimanche 8 octobre 2000. Il est 21 h. D'un pas fatigué, son sac sur le dos, Anne monte les 5 étages de son immeuble. Arrivée sur le dernier palier, essoufflée et toujours surprise de l'être malgré l'entraînement quotidien, elle cherche ses clés dans la poche de son manteau et ouvre la porte de son petit studio. Elle entre, laisse tomber son sac à terre, jette son manteau mouillé sur le lit et s'affale sur l'unique fauteuil de l'appartement. Anne est une jeune fille d'une 20aine d'années. Elle est brune, les cheveux mi-longs. De taille moyenne, ni maigre ni ronde, plutôt bien proportionnée, elle porte un jean et une polaire confortable qui dissimule ses formes. Son visage est fin, agréable, elle pourrait être jolie si elle voulait s'en donner la peine, mais se refusant tout effort de coquetterie, elle reste terne, une fille banale, comme on en croise des centaines sans les remarquer. Et cela est voulu, réfléchi, outre une certaine timidité. Anne tient à ce que l'homme de sa vie, qu'elle attend sans se l'avouer, la remarque pour ses qualités de cœur et non pour le clinquant de sa carrosserie. Tranquillement, elle ôte ses chaussures trempées, puis son jean, dont le bas complètement imbibé, lui garde les mollets dans une désagréable fraîcheur. Quel week-end palpitant ! Un aller-retour à Morlaix, des heures et des heures de train, 1 heure de retard à l'arrivée, et tout ça pour ne rien faire. Je n'ai même pas vu la mer. Par contre, c'est vrai, j'ai longuement regardé la pluie tomber. Très excitant. Les parents voulaient me voir. C'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis au moins 3 semaines. Enfin, pour me voir, ils m'ont vu. Entendu, peut-être pas, on a dû s'échanger 10 phrases au maximum en 2 jours, mais ils m'ont vu. Il est vrai que si j'étais restée à Paris à passer le week-end dans mon studio perchoir, je ne me serais pas beaucoup plus amusée. De toute façon, c'est la vie, c'est ma vie. Une sorte d'ennui bien régulier, bien tranquille. Ça ronronne, pas de souci. Au moins, je n'ai pas peur de ce qui va se passer demain. Je le sais, la même chose que la semaine dernière. Et la semaine suivante, pareil, sans surprise, toujours la même rengaine, boulot, dodo, boulot. Et un week-end sur 3, train, repas de famille, dodo, repas de famille, train. C'est tout à fait la vie dont je rêvais. Je souhaite bien du courage à celui qui voudrait écrire ma biographie. 3 pages s'il est bien renseigné, 10 pages s'il est vraiment bavard. Au-delà, tout est forcément inventé. Alors, Dieu, là-haut, si tu existes, peux-tu faire quelque chose pour moi? Mettre un peu de piment, un peu d'aventure dans ma vie? Lundi 9 octobre. Dieu ne perd pas de temps et Anne est exaucée dès le lendemain après-midi en rentrant du boulot. Et même, cela elle l'apprendra plus tard, elle a été exaucée un peu avant sa demande. Mais il lui faudra du temps pour l'admettre car Dieu ne souhaite de mal à personne et pourtant... Tout commence en ce début d'après-midi. Il est 13h45 et Anne rentre du travail. Elle est vendeuse dans une boulangerie rue de l'Annonciation à Passy. Elle termine tous les jours à 13h30 et il lui faut un petit quart d'heure pour se changer et rentrer à pied au 24 bis rue des Vignes. C'est un petit immeuble assez ancien. Elle habite tout en haut, un des 4 studios réhabilités il y a une 20aine d'années, en groupant 2 par 2 les anciennes chambres de Beaune. Elle est surprise, en tournant dans sa rue, d'apercevoir 2 voitures de police garées en double file, presque devant son immeuble. Quand elle s'approche, elle s'aperçoit que les 2 voitures sont bien stationnées devant la porte de son immeuble. L'une a les inscriptions « Police » sur les portières, l'autre est une voiture blanche banalisée, mais toutes 2 ont un gyrophare bleu tournant sur le toit. Un agent en tenue les surveille tout en contrôlant les entrées et sorties de l'immeuble. Anne doit lui montrer patte blanche et expliquer qu'elle habite bien ici. À son tour, elle demande ce qui se passe, mais l'agent refuse de répondre. En montant l'escalier, elle entend des voix s'interpeller tout en haut. Elle ne peut s'empêcher de penser à son appartement. Aurait-il été cambriolé? Mais il n'y a rien à voler. Une tentative de suicide? Mais qui? En arrivant sur le palier, elle comprend tout de suite que son appartement n'est pas en cause. Elle habite la porte tout à droite et c'est devant la porte tout à gauche, celle du vieux père Poirier, de l'autre côté de l'escalier, qu'elle trouve la concierge en grande conversation avec deux agents. Déjà prévenue, elle n'essaie même pas d'interroger les agents, mais préfère s'adresser directement à la concierge. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il donc arrivé au père Perrier ?»« Ah, ma petite, ce n'est pas joli à voir. Ah non, vraiment, je ne pensais jamais voir ça ici. J'en suis toute retournée. Vraiment, les bandits, les assassins sont partout. Et ce pauvre Émile Perrier, toujours si aimable, si sympathique. » « Mais, madame Claudie, que lui est-il donc arrivé à Émile Perrier ?»« Ils ne vous ont rien dit en bas? Il est mort assassiné dans son appartement. D'après la police, il aurait succombé sous les coups d'un objet contondant. »« Mais quand cela s'est-il passé ?»« Eh bien, comme chaque matin j'ai sonné pour lui remettre son courrier. Il n'a pas répondu et j'ai trouvé ça curieux car je ne l'ai pas vu sortir de la matinée. » Je suis remontée un peu avant midi, toujours pas de réponse. Alors j'ai pensé qu'il avait peut-être eu un malaise. J'ai appelé un serrurier. J'en ai fait 7 avant d'en trouver un qui me réponde. Et encore, comme ce n'était pas ma propre porte que je voulais lui faire ouvrir, il n'acceptait d'intervenir qu'accompagné de la police. J'ai appelé ces messieurs, le serrurier a ouvert, et nous avons trouvé ce pauvre Émile Perrier couché sur le sol, mort, avec du sang séché plein ses cheveux. Je peux vous dire, ça m'a fait une drôle d'impression. J'en tremble encore. Ça alors, et la police sait qui a fait le coup? La police ne veut rien dire pour le moment. Et vous avez vu quelque chose? Quelqu'un? Rien, rien vu, rien entendu. Et pourtant, j'ai l'œil. C'est bien rare que je ne remarque pas quand un étranger monte dans les étages. Ça me fait froid dans le dos rien que d'y penser. À une porte près, ça pourrait être moi la morte. Surtout que ma serrure est assez symbolique. Rassurez-vous, le meurtrier n'a pas forcé la serrure. Émile Perrier a dû lui ouvrir car il n'y a pas de trace d'effraction. Et ça s'est passé hier soir, cette nuit? Sans doute, mais comme je vous l'ai dit, la police ne veut rien dire. Le médecin vient de sortir. Il parlait d'autopsie, alors... Anne quitte la concierge, ouvre sa porte et rentre chez elle. Elle ne peut s'empêcher de faire le tour de son petit appartement, de jeter un œil dans le cabinet de toilette et dans la penderie pour vérifier que l'assassin ne s'y est pas réfugié en attendant le départ de la police. Bien sûr, cela lui paraît idiot, mais il lui faut tout de même vérifier pour se rassurer. À la pensée que son voisin de palier vient de se faire assassiner chez lui, à quelques mètres d'elle, Anne se sent toute perturbée. La mort est passée tout près, ce n'était pas son heure, mais ça aurait pu l'être. Émile Perrier, bien que plus âgé, n'imaginait sûrement pas sa dernière heure arrivée. Du coup, Anne n'a pas faim, elle se contente de grignoter la tartelette aux fraises qu'elle a rapportée de la boulangerie, puis elle s'allonge sur son lit en cherchant à penser à autre chose. Elle ne jette qu'un regard distrait sur le puzzle de 5000 pièces en cours d'assemblage sur une petite table et qui occupe toutes ses après-midi depuis 3 semaines. Allongée sur le dos, elle se remémore Émile Perrier, ce vieux monsieur poli et souriant avec sa barbichette blanche. Il avait toujours une parole gentille pour tous. Elle le revoit, montant doucement l'escalier en faisant une pause à chaque palier. Il lui avait dit avoir le cœur fatigué. Vendredi matin, elle lui avait encore descendu sa poubelle. L'hiver dernier, comme il avait été fatigué, elle lui avait fait des courses 2 ou 3 fois. Au printemps, il était venu chez elle pour arranger sa chasse d'eau qui fuyait. Ils avaient bu le thé ensemble, mais ce n'était pas allé plus loin. Il restait toujours très discret, très réservé. Anne n'a même jamais mis les pieds chez lui. Quelle horreur de finir sa vie comme ça! Il n'était plus tout jeune, mais peut-être lui restait-il encore de nombreuses années à vivre. À force de tourner toutes ces choses dans sa tête, elle finit par s'assoupir et se réveille un peu plus tard en sursaut, au milieu d'un épouvantable cauchemar, trempée de sueur. Elle se décide alors à réagir, elle prend une douche rapide, met des vêtements secs et sort marcher pour se changer les idées. Le soir, malgré la fatigue physique de la marche, elle a un mal fou à s'endormir. Dès qu'elle ferme les yeux, elle voit son cher voisin Émile Perrier, mort, couché par terre dans une mare de sang. L'image l'obsède et elle n'arrive pas à s'en défaire. À 1h du matin, elle allume sa petite télé et laisse le programme, sans grand intérêt, lui vider la tête. Elle finit par s'assoupir devant son poste, qui continue à débiter des fadaises pour noctambule. Mardi 10 octobre. Anne passe sa matinée à servir à la boulangerie, comme chaque jour. Elle rentre chez elle vers 2h15 de l'après-midi. Et quelle n'est pas sa surprise de découvrir des véhicules de police stationnés comme la veille devant l'immeuble. Elle ne peut empêcher son imagination de partir au quart de tour et de l'entraîner trop vite au-delà du vraisemblable. « Ça y est, l'assassin a encore frappé. On va finir par tous y passer. » Elle se précipite et tombe sur la concierge qui semble traîner dans l'allée un balai à la main. « Madame Claudie, qu'est-ce qui se passe encore ?»« Je ne sais pas exactement. Les policiers sont montés avec un jeune homme, le petit-fils d'Émile Perrier. Je le connais car il venait de temps en temps voir son grand-père. » Mais je n'ai pas pu en savoir plus, ils n'ont pas voulu que je monte avec eux. » Anne monte les 5 étages aussi vite qu'elle le peut. La porte de l'appartement d'Émile Perrier est ouverte. Juste dans l'embrasure se tient le jeune homme qu'Anne connaît de vue pour l'avoir déjà croisé dans l'escalier. En face de lui, un gardien de la paix semble le surveiller. Le garçon a bonne allure, assez grand, cheveux châtains coupés courts, le visage ouvert, des yeux noirs très profonds. Il a le même sourire que son grand-père. Enfin, cette description du visage correspond au souvenir qu'Anne a de lui. Car pour l'instant, il baisse obstinément la tête et ne fait pas le moindre signe pour saluer Anne, qu'il doit aussi connaître de vue. Anne hésite un peu, puis s'approche et s'adresse au jeune homme. « Je suis vraiment désolée pour votre grand-père. » Ne sachant quoi dire d'autre, elle le regarde et remarque qu'il a les yeux rouges. Elle est surprise par son regard dur qui s'est à peine relevé à son approche et qui reste rivé au sol. Elle s'attendait à trouver de la tristesse, voire de la détresse. Mais son visage fermé semble plein de colère contenue. Alors, hésitante, ne sachant que faire, elle reste là à le regarder sans se rendre compte du manque de délicatesse de son attitude. Brusquement, il relève la tête, la regarde droit dans les yeux et crache le morceau. « Ces salauds veulent que ce soit moi qui l'ai tué !» Immédiatement, le policier réagit, il le prend par les épaules et le fait rentrer dans l'appartement. La porte se referme. Anne reste seule sur le palier, un peu décontenancée par ce qu'elle vient d'entendre. Elle rentre chez elle. Elle pose sur la table un gros chou à la crème qu'elle a rapporté pour lui servir de dessert, puis met une casserole d'eau sur le feu pour se faire cuire des pâtes. Mais elle ne peut s'empêcher de réfléchir à la curieuse scène qu'elle vient de vivre. Qu'est-ce qui peut faire croire aux policiers que ce jeune homme est le meurtrier de son grand-père? Cette supposition lui paraît totalement absurde. Les assassins ont-ils quelque chose de spécial, une lueur particulière dans le regard? Il faudra qu'elle observe un peu mieux le regard de ses clients, qu'elle voie ce qu'on peut y lire. Elle s'est rendue compte dès le début que le regard du jeune homme ne correspondait pas à la situation. Elle a bien vu dans ses yeux la colère, là où elle attendait la tristesse. Mercredi 11 octobre. Le matin, en partant travailler, Anne ne peut s'empêcher de frissonner en jetant un coup d'œil sur la porte d'Émile Perrier. Elle remarque que des scellés ont été posés pour que personne ne puisse entrer dans l'appartement. Un peu avant 7h, Anne arrive à la boulangerie. Elle embrasse Valentine Renaud, sa patronne, qui se trouve être aussi sa tante, une femme bien en chair, comme se doit de l'être une boulangère à la veille de la retraite. Passant à l'arrière, devant les fours, elle fait la bise à son oncle Adrien et à Rémi, son jeune commis. Ce n'est pas l'heure de les déranger, il faut que le pain sorte. Anne enfile sa blouse et retourne au magasin. Dès les premiers clients, elle scrute les regards. Elle est d'abord très déçue. De si bonne heure, les regards sont encore éteints. À peine réveillés, les gens viennent d'instinct chercher la baguette et les croissants dont ils ont besoin pour démarrer la journée. Elle repère tout de même deux femmes et un homme, les yeux cernés et légèrement rougis. Ceux-là n'ont visiblement pas dormi de la nuit. Peut-être souffrent-ils d'insomnie, ou plus sûrement, ils ont travaillé toute la nuit. Jusque vers 10 heures, tous les clients sont pressés. Ils partent à l'école, à la fac, au boulot ou à la crèche. Ils ont rendez-vous avec leur coiffeur ou leur dentiste. Ils ont la tête ailleurs et n'ont pas le temps de regarder autour d'eux. Les regards paraissent vides, ils sont tournés vers l'intérieur. Après le passage des ouvriers qui démarrent leur journée en achetant le casse-croûte du matin, des lycéens qui prennent leur pain au chocolat car chez eux ils n'ont pas eu le temps de déjeuner, et des mères de famille stressées qui doivent prévoir l'intendance de la journée avant d'aller travailler, les clients qui viennent en milieu de matinée sont plus intéressants. Il y a les retraités, les chômeurs, les rentiers. Ceux-là ont le temps d'avoir une humeur, grincheuse ou gaie selon les jours, et leur regard affiche volontiers la tendance. Anne s'amuse à les deviner avant qu'ils n'ouvrent la bouche. Il y a les hommes désœuvrés, souvent âgés, qui ne peuvent s'empêcher de lancer une réflexion taquine, voire grivoise. Ceux-là ont une petite lumière vive dans l'œil. Il y a les dames qui font leurs courses et qui, en achetant du pain pour la famille, ne résiste pas à l'attrait des pâtisseries étalées devant elle. Celle-là entre, le regard terne, préoccupée de calculer les vivres en fonction du budget et d'établir des menus. Alors qu'elles font la queue, tout à coup, leur œil est attiré, un éclat lumineux apparaît. Leur première réaction est de détourner leur regard. Elles suivent un régime, il faut rester sage. Mais leur œil a repéré un éclair ou une religieuse si appétissante. Après tout, le régime sera aussi efficace s'il ne commence que le lendemain, et de toute façon, il faut aussi soigner sa déprime. Par contre, elle ne repère pas d'assassin potentiel, pas de regard sadique que son possesseur chercherait à dissimuler par des lunettes noires ou en regardant de côté. Au cours de la matinée, elle remarque bien 2 ou 3 types un peu louches, le genre qu'on ne voudrait pas rencontrer une nuit sans lune au coin d'un bois désert. Mais leur regard n'est pas mauvais. C'est leur tenue sale et débraillée, leur coiffure hirsute, une balafre ou un visage déformé qui peuvent faire peur. Anne s'amuse et trouve ce jeu des regards très intéressant. Le problème est que, par manque d'attention, elle se trompe régulièrement en servant les clients. « Mais où as-tu donc la tête ?» finit par lui demander sa tante. « Est-ce que tu ne serais pas amoureuse par hasard ?» Elle rentre chez elle sans avoir fait de découverte particulière. En tournant au coin de sa rue, elle est soulagée de voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de voiture de police garée devant l'immeuble. Elle entre dans l'allée, salue la concierge d'un petit signe et monte les 5 étages. Arrivée sur le palier, essoufflée comme toujours, elle ne peut s'empêcher de jeter un œil à la porte d'Émile Perrier. Là, 24 heures plus tôt, elle a fait cette rencontre si curieuse avec son petit-fils. Et tout à coup, elle a comme une illumination. Elle doit aider ce jeune homme. C'est bien un appel au secours qu'il lui a adressé hier. Il n'a peut-être pas de famille, personne vers qui se tourner. J'imagine dans quel état je serais si un de mes parents mourait. S'il était mort assassiné, ce serait bien pire, je me poserais tant de questions. Mais si la police cherchait par-dessus le marché à me faire endosser le crime, alors je deviendrais sûrement folle. Je dois trouver un moyen de l'aider. C'est tellement évident. La police se trompe, il ne peut pas être le coupable. Pourtant, la police doit posséder quelques indices défavorables, sinon elle ne l'accuserait pas. Il risque d'avoir beaucoup de mal à s'en sortir et peut-être d'être condamné à tort. Et c'est ainsi qu'Anne, prenant comme hypothèse son intuition féminine, se lance à l'aveuglette dans une recherche dont elle n'a idée ni des difficultés, ni de l'aboutissement, ni même du point de départ.